mon propos ce matin, eh bien, c'est de laisser la parole de Dieu nous interpeller, parce que c'est la parole qu'on veut écouter, bien sûr, et nous mettre en garde contre tous ces comportements qui déplaisent à Dieu. Et on finirait presque par trouver normaux, parce qu'en fait, le monde, eh bien, les accepte, et non seulement les accepte, mais cherche à promouvoir ce genre de comportement, hein, en disant c'est le progrès, c'est l'évolution naturelle vers un mieux, alors qu'en réalité, eh bien, il s'agit ni plus ni moins de comportements que Dieu réprouve, en fait, et qu'il faut savoir appeler par leur nom, ce sont des péchés. Et comme tout péché, Dieu les a en abomination. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup du décès de Madame Veil, Simone Veil, on vante ses qualités, on vante son courage, on vante les combats qu'elle a menés, c'est vrai. Hein, c'est une femme respectable, et la nation veut lui rendre même les honneurs, hein, d'un deuil national. Mais personnellement, on oublie un peu qu'elle a quand même fait voter une loi qui porte son nom, en faveur de l'avortement, et je ne pense pas que ça ait réjoui le cœur de Dieu. Pour moi, l'avortement est un crime, pour nous chrétiens, c'est un crime. Bon. Mais le monde, non, c'est la liberté de la femme. Comme si une femme qui avorte va être plus libre. Enfin, je ferme la parenthèse. C'est pour vous dire, on est quand même dans un monde, on n'a pas tout à fait les mêmes références. Voyez. Bon. Donc j'aimerais que Saint-Esprit nous aide à retrouver le sens aigu de ce qu'est le péché, et en même temps, par opposition, je dirais, la pleine conscience de l'immensité de la grâce, hein, et de l'amour de Dieu, en fait. Et si on arrive à rendre vivant cet amour que Dieu a mis dans nos cœurs, rendre vivant et agissant, eh bien, je peux dire qu'on sera vraiment en mesure de triompher de toutes les situations dans lesquelles on va se trouver. Et on va toujours, c'est par amour qu'on va réagir, hein, dans toutes ces situations. Donc, le titre du message, c'est « Sauvé par grâce pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous ». Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Et je vous invite déjà, avant de lire la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit, hein, puisque c'est lui qui est concerné directement, eh bien, d'œuvrer dans nos cœurs et d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, on veut encore disposer nos cœurs à écouter ta parole, Seigneur. Notre désir, c'est de te plaire. Notre désir, c'est d'être formé par toi. On a chanté que tu viennes souffler sur tous les recoins de notre cœur, Seigneur. Et c'est vrai que c'est notre désir que tu viennes nous remplir de ta présence en tout domaine. Et ben, dispose nos cœurs encore à recevoir cette parole qui est une parole vivante, une parole qui doit nous façonner, une parole qui doit, hein, donc nous rendre conforme à l'image de Jésus, ton Fils bien-aimé, Seigneur, et merci encore, et bien, que chacun reçoive ce que toi, tu veux lui transmettre au travers de ce message, Seigneur. Amen. Donc, je voulais bien prendre le texte qui se trouve en Éphésiens, chapitre 2. On va lire des versets 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, dans l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous tous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par grâce que vous êtes sauvés, donc c'est un don de Dieu. L'homme aime bien souvent faire valoir ses droits, c'est vrai. Hein, on se met en avant, on a fait des efforts pour obtenir donc tel ou tel résultat, et il y a cette notion, je dirais, de mérite qui est très à la mode. Pendant longtemps, il y avait une pub avec ce slogan « Parce que je le vaux bien ». Bon. Dans beaucoup d'administrations, beaucoup d'organismes, effectivement, fonctionnent avec le mérite, et on donne un bonus, on donne une récompense à celui qui a fait preuve, eh bien, de zèle, de compétence, de courage. D'accord. Bon. C'est humain, et c'est vrai que lorsqu'on se fatigue, on aime bien quand même que l'effort qu'on a fait soit reconnu, hein, et que ce soit apprécié. Ça fait du bien. Ouais. L'année scolaire se termine, il y a beaucoup peut-être, eh bien, on passe des examens de fin d'année, il y a peut-être même des bacheliers, on les félicite. Bon. L'examen, c'est pour sanctionner des connaissances qui ont été acquises. On fait un contrôle de connaissances. Il faut préparer l'avenir professionnel pour passer dans la classe supérieure. C'est normal. Il y a un contrôle et le jury va tenir compte des efforts qui ont été faits. Mais si vous n'avez rien fait en cours d'année, si vous n'avez pas pris votre travail au sérieux, soyez pas surpris du résultat, on va récolter ce qu'on sème. Et si vous redoublez votre année, si vous n'avez pas votre examen, et tout, ne vous en prenez pas à l'examinateur, ne criez pas au scandale, à l'erreur de correction, vous méritez ce que vous avez fait. Dans le texte qu'on vient de lire, Paul rappelle que tous, juifs ou non-juifs, par notre attitude à l'égard de Dieu, nous méritions la sanction, c'est-à-dire la mort, mort physique et spirituelle. Verset 1, on l'a lu, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Verset 5, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Et en application de sa justice, donc, et ça nous concerne bien sûr, Dieu se devait de nous punir de notre désobéissance. Et on l'a lu, nous étions destinés par nature à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Et nul ne peut dire « je n'ai jamais dit non à Dieu, je n'ai jamais fait de mal à personne ». Vous savez, c'est des réflexions qu'on entend souvent, ça. Les gens se justifient facilement, ils vous diront « je sais bien que bon, je ne suis pas parfait, c'est vrai, mais je ne suis pas méchant, je ne suis pas un mauvais bougre, vous savez, bon. Si Dieu est bon, il comprendra, il pardonnera ». On entend souvent ça. Et c'est vrai que Dieu est toujours prêt à pardonner, mais on oublie qu'il y a une condition. La condition, c'est qu'on se reconnaisse pécheur, qu'on se reconnaisse coupable, fautif, en fait, et qu'on demande pardon. Autrement dit, la repentance, elle est toujours le préalable à toute chose. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Ça nous a été rappelé dimanche dernier aussi, mais c'est vrai que c'est un impondérable. Hein, ça fait partie des choses qu'on peut pas contourner. Si on lit 1 Jean 1, 8, je vais vous lire d'ailleurs 1 Jean 1, 8 à 10, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion de et la vérité n'habite pas en nous. Dimanche dernier, on nous a rappelé, on doit tout faire pour rester dans la vérité. Hein. C'est important cette vérité, on est dans la vérité de la parole de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, sa parole n'est pas en nous. Tous pécheurs, et pourtant on est toujours tenté de nous disculper, c'est vrai, de vouloir faire endosser la responsabilité de nos erreurs, toujours à quelqu'un d'autre. C'est jamais notre faute, évidemment. Et il faut trouver un coupable, c'est forcément c'est l'autre. Eh oui. Rappelez-vous dans Ève, quand Dieu, les cherches se retrouvent face à Dieu pour avoir désobéi, eh bien, Adam va dire à Dieu, Genèse 3:12, c'est la femme que tu as placée après de moi, elle m'a donné du fruit de cet arbre, j'en ai mangé. Autrement dit, si tu m'avais, c'est ta faute, si tu n'avais pas donné cet arbre à côté de moi, voilà, ça ne serait pas arrivé. Et Ève, elle n'est pas plus honnête. Ève, elle va dire, si vous trouvez un coupable, verset 13, c'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. Bon. Donc reconnaissons, on a souvent ce réflexe, lorsqu'on est pris en flagrant délit, bien de faute, que notre nature charnelle elle va chercher toujours à nous disculper. Et à défaut de trouver un coupable, on va se trouver des excuses. Bon. Hein, d'accord, c'est moi, mais alors, c'est vrai, bon, c'est ma nature, je suis né comme ça, il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part, mes paroles ont dépassé ma pensée, je ne voulais pas que ça aille jusque-là, c'est un trait de caractère que j'ai hérité de mes parents, tout le monde le fait, les temps changent, il faut vivre avec son temps, des excuses. Et on peut en inventer beaucoup d'autres. J'ai manqué d'imagination. Bon, la liste est longue, mais ça, c'est des vraies fausses raisons de ne pas endosser nos responsabilités. Et quand on réagit de la sorte, en fait, on réagit selon les critères du monde. Et selon ces critères-là, on se trouve pas trop mal, finalement. C'est pas mal. On fait comme tout le monde. On fait peut-être même un peu mieux que l'autre. Bon. Mais si on prenait le miroir de la parole de Dieu pour voir tel qu'on est aux yeux de Dieu, là, je crois que on se trouverait beaucoup moins bien. Vous savez, il n'y a pas à se tromper, la Bible, elle est claire dans ses commentaires, là on ne peut pas être confus. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs, tous coupables. Romains 3, 23, vous connaissez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous pécheurs, tous condamnés à mort, et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc ça, c'est un constat auquel personne ne peut se soustraire. C'est ce qu'on méritait, la part de Dieu. Et Dieu est en droit de nous infliger le pire des châtiments. Alors, pourquoi Dieu a décidé d'intervenir en notre faveur en envoyant Jésus? Lorsqu'on pose la question, vous savez, la réponse n'est pas forcément évidente pour tous ceux à qui on la pose. Et pourtant, elle est importante. Paul la formule clairement, lui, dans ce passage, on l'a lu, mais relisez les versets 4 et 5. « Dieu qui est riche en miséricorde, et voilà la raison, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Bon. Donc c'est donc à cause de son grand amour et uniquement pour cette raison. Et là, ça nous dépasse. Hein. Vraiment, ça nous dépasse. Hein. Son amour est tellement infini, hein, et c'est vrai qu'on ne peut en mesurer, hein, et ça vous l'avez dans ce même lettre aux Éphésiens, mais chapitre suivant, chapitre 3, regardez donc les versets 17 à 21, hein, il est mis 3, 17, 21, en sorte que le Christ habite dans nos cœurs. Donc, ça a été lu ce matin dans la louange, donc, en sorte que Christ habite dans nos cœurs, la foi est enracinée et fondée dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On ne peut pas mesurer l'étendue de l'amour de Dieu. Les meilleurs géomètres, que ce soit, ou les, je dirais les spécialistes dans les relevés, là, dans l'infiniment grand, infiniment petit, on ne peut pas mesurer. C'est pour ça qu'on est dépassé. Amour incommensurable. Bon. Et on a même lu aussi, là, dans le passage donc, de Éphésiens 2, il nous a aimés et il nous a fait asseoir donc, afin de montrer donc, sa bonté envers nous. Et donc il est mis aussi donc, par. Il montre sa puissance dans son amour. Amen. Et cette puissance, en fait, contrairement. Le monde, quand le monde montre sa puissance, c'est toujours pour imposer, c'est pour, je dirais, quelque part, dominer. Et même si c'est pour aider, c'est toujours pour finalement un amour égoïste. C'est toujours pour un concerto, en fait. Ça, c'est le prix du monde. On utilise la puissance toujours, jamais pour aimer l'autre. C'est très rare, ça. Mais Dieu, sa puissance, il veut la développer en nous pour qu'on puisse aimer à son image, à sa façon. Et donc, l'amour de Dieu est parfait. Et quand on parle de cet amour, il y a deux attitudes spécifiques que vous connaissez, mais qu'on prend l'une pour l'autre, en fait, indifféremment, alors qu'en fait, c'est deux mots différents, et derrière ces deux mots, il y a une réalité tout à fait différente. C'est la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Dans sa bonté, d'une part, Dieu ne nous donne pas ce qu'on méritait, ça c'est sa miséricorde, et en même temps, il nous donne ce qu'on ne méritait pas, ça c'est sa grâce. Bon, je réexplique, vous connaissez, on va revenir un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on mérite? Rien. Rien, sinon, effectivement, je l'ai dit, châtiment, et une vie coupée de Dieu, et donc une vie épouvantable. Bon. Et, parce que Dieu avait... L'homme a désobéi, Dieu avait prévenu, l'homme a désobéi, bon, Dieu est juste, Dieu devait punir. C'est vrai. Mais dans son amour, donc Dieu nous épargne son châtiment. Jésus va venir, donc, effectivement, subir à notre place le châtiment que nous devions subir. Vous connaissez tous, je rappelle, Ésaïe 53, versets 4 à 6. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, et l'Éternel a fait retomber donc, sur lui les fautes de nous tous. Bon. » Donc, ne pas subir le châtiment que nous devions subir, que nous méritions, ça, c'est la miséricorde de Dieu qui a un cœur rempli de compassion, de miséricorde, son cœur a compassion de nous. Ce qui ne veut pas dire, je le dis, je le souligne quand même, que Dieu a fermé les yeux sur ce qu'on a fait. Puisque, en fait, ça a été payé et payé cher par Jésus. C'est ce qu'on a d'ailleurs rappelé pendant la Sainte Cène, bien sûr. Mais une fois sa justice satisfaite par le sacrifice de Jésus, Dieu ne nous devait plus rien. Et il aurait pu en rester là. Il nous avait pardonné. Et c'est là qu'intervient sa grâce, il va nous donner ce qu'on ne mérite pas, c'est-à-dire qu'il nous fait entrer dans sa famille, nous, les assassins de son fils. Et ça, il faut quand même en être conscient. Ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains qui sont responsables de la mort de Jésus. Bon, ils ont été les instruments, mais les responsables, c'est nous. Je suis responsable, par mon péché, d'avoir fait mourir Jésus. Donc, je suis un assassin. Mais l'assassin que je suis, Dieu... non seulement pardonne, mais Dieu le fait rentrer dans sa famille. Et là, c'est quand même quelque chose qui est quand même incroyable. Et le summum de son amour, c'est qu'il fait de moi un héritier. Héritier de toutes les promesses et d'un tas de bénédictions. Et là, on n'est pas en plein compte de fées, c'est la réalité. Et les bénédictions, elles sont nombreuses. Simplement, pour mémoire, on va relire toujours dans Éphésiens, on va prenez au chapitre 1 des Éphésiens, on va lire des versets 3-14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, on souligne au passage, élus avant la fédération du monde, pour que nous soyons en lui saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment pour nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avions espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Si vous soulignez au passage, ça en fait des bénédictions tout ça. Hein, ça en fait. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus, j'ai envie de dire bon. Et ça, un cadeau comme ça, ça mérite quand même de la reconnaissance de notre part. Hein. Ce serait vraiment de l'ingratitude d'oublier. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour ça aussi qu'on prend la Sainte Cène. Mais pas uniquement, parce que c'est plus qu'un mémorial. D'accord. Bon. Donc il y a deux points importants là, sur lesquels... Je voudrais insister dans ce message. C'est un peu vrai, l'ordinateur, il faut régulièrement refaire des mises à jour. Il faut réactualiser des données. Bon. Ces données-là, on les connaît, mais c'est des fondamentaux incontournables. Bon. Le problème, c'est qu'on finit par trouver ça tellement normal, eh bien, on banalise une réalité qui devrait en permanence, je dirais, nous percuter et rendre nos comportements inempathiques, en fait. Le premier point, c'est n'oublions jamais le prix que Jésus a payé pour notre liberté, pour que nous retrouvions cette intimité avec Dieu. Et autrement dit encore, ne banalisons jamais la gravité du péché. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est sachons apprécier à sa juste valeur la grâce que Dieu nous fait. Amen. Ne méprisons jamais les bénédictions auxquelles nous avons droit, que Dieu, auxquelles il permet qu'on accède. C'est pas un droit, il permet qu'on accède, mais que la grâce de Dieu en nous soit pas bénie. Donc, c'est deux points importants, parce qu'en fait, si vraiment on les vit, ça va avoir un réel impact sur notre vie chrétienne, je peux vous dire. Et on aura un tel enthousiasme, et bien que notre témoignage va être percutant. Donc, le premier point, simplement avoir développé donc, ces deux points, tout péché donc, est une abomination aux yeux de Dieu. On sait que le péché, c'est en fait, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté, je dirais, que Dieu nous a révélée. On est pas dans ses plans, on passe à côté, vous savez que le mot ça veut dire on rate la cible, quelque part, Dieu a un projet, et on passe à côté parce qu'on désobéit, on ne fait pas ce que Dieu voudrait. Bon. Et là je ne vais pas détailler, puisqu'on vient de vivre la Sainte Cène, on s'est remis devant toutes les souffrances que Jésus a endurées, Marc nous l'a rappelé aussi, on prenait donc le pain et le vin, c'est quand même terrible, cette couronnement, cette flagellation, les injures, le crucifiement. Vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson là, sur la passion, mais, c'est très très dur. Hein. Moi, quand j'ai regardé, j'avais à côté de moi quelqu'un qui a fermé les yeux la moitié du film. La personne ne supportait pas. Parce qu'en fait, je dirais, c'était l'illustration, il y avait tel réalisme que c'est dur, et pourtant on est devant l'image. Mais si on imagine la réalité, c'est vrai, on peut pas rester indifférent. Et c'est vrai qu'on a quand même, vous savez combien on a de litres de sang dans l'organisme ? On a quand même 5 litres. Verser 5 litres de sang, ça fait beaucoup de sang. Et Jésus, il a versé quand même tout son sang. Il a versé son sang en rémission des péchés. Alors, c'est peut-être dur de lire le récit, c'est peut-être dur de voir le film. Mais moi, je vais vous dire, c'est encore en deçà de la réalité. C'est en deçà. Bon. Et quand on lit pour mettre Ésaïe, vous savez, Ésaïe 53, j'ai fait référence tout à l'heure, bon. Vous connaissez, mais je vais simplement vous citer quelques extraits. Il n'avait donc ni beauté ni éclat pour attirer le regard, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. La vision de Jésus, elle inspirait tellement de dégoût qu'on détournait les yeux. Bon. Ça, c'est le résultat du péché. Et pourtant, Jésus était l'homme parfait, était le seul homme juste, qui n'avait jamais commis de péché, donc il ne méritait pas. Et c'est la réflexion d'ailleurs d'un des deux malfaiteurs, à l'autre qui a insulté Jésus, il va lui dire, c'est en Luc 23, 40, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et le malfaiteur disait vrai, Jésus n'avait rien fait de mal, mais il souffrait à notre place, il a souffert à ma place. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité. Donc Jésus a payé cher, c'est vrai. Cette rançon qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Et je vous redis ce verset qu'on connaît bien, 1 Pierre 1, 18-19. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc, quand on considère ce que Jésus a souffert, on ne peut pas rester indifférent. Dans la mesure où on est pris dans nos émotions et qu'on réalise l'amour. Mais d'autre part, on doit tout faire pour éviter ensuite, je dirais, de succomber à nouveau et de repratiquer le péché. Et pensons à ce que le Père Dieu a ressenti, en fait, en voyant son Fils bien-aimé, en qui il avait toute son affection, en voyant Jésus, donc, en fait, dans un tel état. Maltraité, défiguré, devenu l'objet de malédiction, puisque pendu au bout de la croix, se sentant abandonné et coupé de sa relation parce qu'il était devenu péché à notre place. De Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Donc, cet acte d'amour, on doit toujours l'avoir quelque part devant les yeux, on ne peut pas rester indifférent, parce que si on fait fi de la valeur de ce sang versé, ce qui est le sens de l'alliance quand même par lequel on a été purifié, ça équivaut à mépriser ce que Jésus a fait à la croix, et c'est on outrage la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'explique l'auteur du livre aux Hébreux, dans un passage qu'on va lire ensemble, Hébreux 10, les versets 24 à 31. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse verse son miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc là, c'est une mise en garde, en fait. Mise en garde, déjà, de ne pas prendre l'habitude d'abandonner nos rencontres fraternelles, ce que font là beaucoup de chrétiens. Et de prendre le risque de retomber, souvent, dans des pratiques anciennes, donc pour pratiquer le péché. C'est un risque qu'on prend. Parce qu'il exhorte au contraire les chrétiens à être ensemble, à se soutenir, à s'encourager, et à, surtout à préserver avec assurance donc, cette espérance et l'attente de la récompense qui vous est promise. Donc l'avertissement est à prendre au sérieux. On a si vite fait de retomber dans nos vieilles habitudes. Je parle en connaissance de cause, vous savez. Si vite fait de laisser notre vieille nature reprendre contrôle et notre vie chrétienne, elle redevient une vie faite de pratiques, souvent. Et comme c'est des pratiques, eh bien, on va s'y plier plus ou moins, selon qu'on va trouver que c'est important, ou selon que ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas. Et on retombe dans une pratique religieuse au lieu de vivre, je dirais, l'intimité d'une relation, d'un amour passionné, avec celui qui nous a quand même aimés à la folie, et qu'on devra en retour, je dirais, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. En lui donnant tout ce que nous avons, comme lui-même nous a tout donné. J'ai dit, la vie chrétienne, c'est une belle histoire d'amour, mais il faut la vivre, je dirais, avec tout ce qu'on est. Complètement. Et je crois que c'est bien ce qu'on a dit à Jésus le jour où on a réalisé qui on était. Le jour où on a réalisé l'amour qu'il nous a manifesté et l'efficacité de son œuvre à la croix. Ce jour-là, quand on lui a dit, Seigneur, tu m'as sauvé et je veux que tu diriges ma vie, tu es mon Seigneur. Et je te donne ma vie, je te donne tout. Je pense que si vous êtes là ce matin, c'est une démarche que vous avez faite. Je te donne tout, c'est vrai. Mais moi j'ai cette décision, je l'ai prise, je peux vous dire, le visage baigné de larmes et les mouchoirs que j'avais ne suffisaient pas. J'avais pourtant 45 ans. Mais là, je peux vous dire qu'il m'aurait fallu un drap. Hein. J'ai pleuré pendant des heures. Larmes de repentance. Ça fait du bien. Parce que j'étais convaincu de mon état de péché. À 45 ans, on a peut-être plus de choses à se pardonner, sûrement. Hein. Mais vraiment, pour moi, c'était une nouveauté. Mais j'ai plongé à fond là-dedans. Et vraiment, c'est bon. Eh bien, est-ce que je suis encore capable de verser de telles larmes? Est-ce que je suis toujours autant soucieux de ne pas déplaire à mon Seigneur que je l'étais au début de ma conversion? Qu'est-ce que j'ai fait de mon premier amour? Et comment je réagis face aux exigences d'une vie en Église, avec ses impératifs de présence, de ponctualité. Bon, je ne parle pas ce matin, c'est différent. Hein. Il y avait des obstacles, ouais, bon, hein. Mais habituellement, ponctualité, c'est pas... Bon. Participation dans les services, dans les finances, est-ce que je me sens concerné? Parce que, comprenez bien que la réponse à ces questions-là, elle indique la qualité de mon amour. Si je ne suis pas capable d'offrir à Jésus un peu de mes temps libres, donner la priorité dans mes occupations, le mettre en premier dans ma vie, là, il y a un danger. Il y a un danger, et le danger, c'est que peu à peu, ma nature charnelle, elle va reprendre le dessus, et de façon insidieuse et inconsciente, je vais perdre cet élan qui me poussait à tout faire pour plaire à Dieu. Et dans un contexte comme ça, où je commence à relativiser, eh bien, je ne mesure plus à quel point je vais attrister Dieu par mes comportements. On se donne des excuses, ça j'en ai parlé au début, et on affirme parfois, oui, on le chante, on est l'armée de Dieu qui se lève pour le servir. Il y a un dimanche, dans ce lieu, nous sommes l'armée de Dieu qui se lève. On a chanté le chant début de louange. Il y avait peut-être 15 personnes, disséminées partout. Mais une armée comme ça, Satan, ça ne lui fait pas peur. Ah, cette armée, ça ne lui fait pas peur. Mais une armée, la discipline. Vous savez, je peux me dire soldat de Christ si je suis discipliné. Enfin, disciple de Christ et soldat. Paul va dire à Timothée, 2 Timothée 2, 3, 4, « S'ouvre avec moi comme un bon soldat de Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il va parler des sportifs qui veulent gagner. Il dit, voilà, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles et en s'imposant un entraînement. Et il ajoute, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça veut dire, on veut la victoire, oui. On veut gagner la coupe, oui. On veut recueillir les fruits. Ça, c'est une bonne chose, c'est ce que Dieu veut. Bon. Mais le problème, c'est que Dieu attend parfois notre participation, notre collaboration. Il veut qu'on réponde présent, me voici, prêt à te servir. Bon, mais pas seulement le dire, il est là, quand il s'attend à ce qu'on soit là. Vous savez, il veut nous associer à son œuvre, il a préparé des bonnes œuvres pour nous, on l'a lu, pour qu'on les réalise. Est-ce qu'on est soucieux et occupé à les réaliser? Est-ce qu'on a envie déjà? Est-ce qu'on veut s'en donner les moyens? C'est important, vous savez, c'est important. Parce que, et on se donne facilement bonne conscience, c'est vrai, mais Jacques a quand même écrit. Ça devrait nous interpeller, ça. Jacques 4, 17, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. C'est pas moi qui le dis. Hein. Jacques écrit ça. Et souvent, oh, j'ai rien fait de mal. C'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Mais tu pouvais faire le bien. Tu l'as pas fait. En te comportant ainsi, tu as sûrement attristé le cœur de Dieu. Vous savez, tu pouvais témoigner, tu t'es tu, tu n'as rien dit, ton silence peut être coupable. C'était peut-être le moment. D'annoncer le Seigneur Jésus. Bon. Donc, il y a des situations dans lesquelles Dieu nous met au défi de lui manifester notre amour. Et il est bon, en ce cas, de toujours se souvenir de ce que Jésus a payé pour nous. Parce que ça nous donnerait peut-être le courage de réagir, parce que la tendance naturelle, c'est vrai que on va se plaindre, on veut notre petite vie tranquille, et oui, on rechigne devant des efforts, et des fois même une soirée, bon, mardi dernier encore, bon, je savais qu'il y avait une réunion de prière. Premier réflexe, non, il n'y a pas. Et puis, si, on y va. Et je peux vous dire, on a été bénis, on était content. Mais il y a l'effort à faire. Et oui, mais il faut le faire aussi, c'est vrai, par amour. Mais, donc, faut pas. Pardon Seigneur, mais souvent, on te déçoit. Parce qu'on manque de consécration, on manque de sérieux, quelque part. Et pensez à tous ces chrétiens persécutés, je peux vous dire qu'ils sont dans une autre situation que nous. Rappelez-vous ces pourcentages, moi j'ai noté, bon, je ne vais pas vous la citer, mais c'est affolant les pourcentages que Marc a donné dimanche dernier concernant tous ces chrétiens qui ne sont pas impliqués, qui ne lisent pas leur Bible, qui ne prient pas, qui ne participent pas aux finances, à aucun service, à affolant. Et ça, ça quand même, je crois que ça donne l'interpeller quand même. Eh bien, que Dieu renouvelle ses dispositions à servir avec zèle, je dirais, en tout temps et même en vacances. Mais bon. Et notre souci, ce n'est pas de pratiquer des œuvres en vue du salut, parce que ben, c'est simplement de coopérer à l'œuvre de Dieu, d'accord, dans les projets qu'il a pour nous, avec un cœur généreux et, je dirais, débordant d'amour. Et donc, il faut rendre au péché son caractère, je dirais, détestable et ne pas pratiquer le péché. 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Comprenez, pratiquer, c'est ne s'adonne pas, n'en fait pas une habitude. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc on a cette nature divine qu'on a reçue, et il faut vraiment qu'elle se manifeste pleinement en nous, et nous éloigne de tout ce qui déplaît à Dieu quand même. C'est vrai. Parce qu'on est quand même ses enfants, il ne faut pas oublier. On est les enfants de Dieu. Et ça, c'est la grâce. Et là, je reviens quand même sur la grâce, on l'a dit aussi. La grâce, donc on l'a dit, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'acheter, c'est un cadeau qu'on reçoit de la part de Dieu. On ne le méritait pas, mais non seulement on ne le méritait pas, mais on en a besoin. Et ça, il faut en prendre conscience aussi, parce que c'est justement parce qu'on ne peut pas se l'offrir que Dieu nous en a fait cadeau. On est conscient qu'avec l'argent, on peut s'acheter beaucoup de choses, mais pas tout. On peut s'acheter une maison, mais pas un foyer heureux. On peut souscrire une assurance vie, mais ça n'enlève pas la crainte et la venue de la mort. On peut se procurer des tranquillisants, des somnifères, mais ça ne procure pas une paix intérieure. On peut acheter beaucoup de confort, bien des commodités, mais ce n'est pas ça qui va nous donner le bonheur. Et on peut même s'acheter une place au cimetière, mais ça ne nous donne pas une place au ciel. C'est vrai. Alors comment on va se procurer le salut de l'âme, la paix avec Dieu, le pardon des péchés et la vie éternelle? Eh bien, un seul moyen, et en français le moyen, c'est grâce à la grâce de Dieu. Eh oui. La grâce, c'est le seul moyen qui permet d'accéder à toutes ces bénédictions. Bon. Mais je reprécise, le don est gratuit, mais Jésus a payé cher. Et vous savez que quand Jésus s'est crié avant de rendre son dernier souffle, tout est accompli, en grec tetelestai, et c'est ce qu'on mettait en bas des factures pour dire acquitté. La facture était payée. Donc c'est ce que Jésus, en fait, à prononcer du haut de la croix. Tout est payé. Donc si c'est payé, Dieu ne serait pas juste de nous faire payer à nouveau. Mmh. Et c'est pour ça qu'entre parenthèses, le purgatoire, c'est une aberration, parce que pourquoi voulez-vous qu'on passe dans un lieu intermédiaire avant d'être sauvé? Ça voudrait dire que ce que Jésus a fait ne suffit pas. Et Dieu ne serait pas juste de nous refaire payer, nous faire purger une peine qu'il a tout pris sur lui. Donc c'est quelque chose d'impensable. On meurt, on est avec Dieu pour l'éternité, on est coupé de Dieu pour l'éternité. Donc on est sauvé par grâce, gratuitement, donc par la foi en Jésus et son œuvre à la croix. Et tout est, et comme la grâce, la foi est elle-même un cadeau, en fait tout est cadeau. Et c'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie, et c'est vrai que c'est contraire à ce qu'enseigne effectivement beaucoup de religions qui laissent entendre qu'on peut, par les œuvres, en quelque sorte mériter son salut. L'homme n'est pas justifié par les œuvres, non ? On ne mérite rien, on ne peut rien acheter, Dieu ne vend rien. Il donne tout, le salut n'est pas à vendre, il faut le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça, c'est l'expression de la grâce de Dieu, vous savez. Dieu, dans son amour, porte sur nous un regard favorable, bienveillant, bien disposé, et il nous donne généralement ce dont on a le plus besoin, et même plus, et même plus. Donc, est-ce à dire que nos œuvres sont vaines? Absolument pas, parce que Paul termine bien le passage, nous sommes son ouvrage, et même c'est son chef-d'œuvre, on est chef-d'œuvre de Dieu, ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a sauvés pour que nous accomplissions des œuvres qu'il a préparées pour sa gloire. Donc c'est les conséquences et le comportement logique de celui qui a été au bénéfice, je dirais, de sa miséricorde, et qui veut le faire connaître à tout le monde. Et c'est en ce sens que Jacques va préciser que l'authenticité de notre foi, elle se prouve par les œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte et inutile. Donc comprenons bien que si la Bible exhorte aux bonnes œuvres, c'est pas pour mériter son salut, c'est uniquement, je dirais, pour que cette grâce reçue soit utile et serve les projets de Dieu. Et là, j'ai peut-être déjà signalé une fois, mais je vous le redis, vous avez un passage dans Philippiens 2:12 qui peut prêter à confusion. selon la traduction de Louis II, il met « travailler à votre salut ». Et on pourrait croire que ce salut est le fruit d'un travail, qu'il faut amener à bon terme, hein, alors qu'en fait la meilleure traduction c'est « mettez en œuvre votre salut ». Donc faites fructifier. Et on comprend bien que Dieu là, nous a sauvés pour servir. Donc on est des collaborateurs, et j'ai vu tout de suite, de toute façon, il est fait mention de récompense, Dieu, effectivement, n'est pas injuste, et on ne travaille pas pour rien à l'œuvre de Dieu. Et ce qui est important aussi maintenant, c'est de savoir que cette grâce que Dieu nous a faite, il veut la faire à tout le monde. Et ça, c'est aussi important. Parce qu'en fait, Dieu ne fait pas de favoritisme, hein, il ne fait exception de personne, et il est dit qu'il veut que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est là qu'il faut apprécier le privilège que nous avons, mais ça doit modifier le regard qu'on a sur les autres, en fait. Parce qu'en fait, on est parfois prompt à réagir, si vous voulez, on voit les défauts de l'autre, on va lui reprocher, hein, ses attitudes, son comportement, hein, on va avoir des paroles parfois même dures, mais attention, on n'était pas mieux avant que la grâce de Dieu nous touche, en fait. Et on l'a lu, Éphésiens 2:3, nous faisions partie des hommes rebelles à Dieu, nous vivions selon le désir d'hommes livrés à eux-mêmes. Donc on n'était pas aimables et Dieu nous a aimés. Il y a ce passage en Romains 5, 8, 10 qui dit « Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions ses ennemis, Christ est mort pour nous. » Paul pose même la question « Est-ce qu'on mourrait pour quelqu'un de juste ?» Ah, ben, plus forte raison. Hein. Donc, voilà comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous, nous dit ce passage-là. Donc, en retour, on doit quand même nous agir aussi de même. Vous connaissez cette parabole de Jésus concernant les deux débiteurs. On va le relire quand même rapidement parce que ça illustre quand même une chose importante en Matthieu 18. Matthieu 18, on va lire les versets 23-35. C'est pourquoi le royaume des cieux semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui a amené un qui devait 10 000 talents. Bon. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit quittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. J'ai pris le temps d'essayer de regarder les correspondances entre les 100 deniers. Hein. Un denier, c'était le prix d'une journée, à peu près, et avec les 10 000 talents, la différence est de 1 à 100. Imaginez qu'il devait, l'un devait 100 000 euros, hein, l'autre devait 1 000 euros. En gros, ça, c'est un peu cette proportion-là. Donc il le saisit et l'étranglait en disant « parce que rends-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant en terre, le supplia, dit « aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, et si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Donc l'enseignement de Jésus, il est clair. Bon, Dieu nous a pardonnés, nous a remis une dette énorme, on est insolvables. Et quand nous, en fait, on ne pardonne pas quelqu'un, on se comporte comme ce deuxième serviteur-là, hein, qui devait une petite dette, mais qui n'a pas fait, donc, par ce serviteur qui n'a pas fait, donc, remise de sa dette, qui était minime, en fait. Et Jésus va émettre cette loi spirituelle à plusieurs reprises, notamment dans, lorsqu'il enseigne la prière de notre Père dans Matthieu 6, 12, il y aura donc ces mots, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Et il va ajouter un peu plus loin, Matthieu 6, 14. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc, on peut faire obstacle à la grâce de Dieu par une attitude de non-pardon. Et derrière ce non-pardon, souvent, il y a aussi beaucoup d'orgueil. Parce que c'est même l'orgueil qui s'oppose à la grâce de Dieu. Parce que c'est la même démarche. Pourquoi on ne pardonne pas ? Parce qu'on s'estime meilleur que l'autre. On estime que nous, on est mieux. Et souvent, et pourquoi on n'accepte pas la grâce de Dieu ? C'est pas compliqué. En fait, on voudrait mériter. On n'accepte pas ce qui est gratuit. Vous savez, on est une société, et plus ça va, j'ai la pire c'est, on veut tout payer, tout monnayer, tout mériter. Pour rendre un service gratuit, vous débarquez d'une autre planète, d'où tu viens. Vous savez, gratuite, ça devient très rare maintenant. Parce que l'homme aime bien avoir les moyens de souffrir et il ne veut pas être redevable. Il ne veut rien demander, et surtout pas pardon. Et la semaine dernière, on était encore avec un de nos voisins, hein, c'est son problème. Il ne prie pas Dieu parce qu'il ne veut pas demander. Il ne veut pas demander. Bon, c'est des problèmes, ça remonte loin. Enfin, là, quelqu'un qui bute, ben, il ne veut pas demander. Alors qu'il a besoin. On a tous besoin. Bon. Donc c'est l'orgueil souvent qui va tuer la grâce, en fait. Et vous savez, David, dans le psaume 51, vous savez que quand il va prendre conscience, quand Nathan vient le trouver, il prend conscience de l'horreur de son péché, son adultère avec Bathsheba, il aura ce psaume de repentance, donc il va vraiment demander pardon. Il va dire, Seigneur, donc, aie pitié de moi, hein, j'ai fait le mal devant toi, je le reconnais et tout. Et il va dire, à la fin, donc au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu prend plaisir à voir quelqu'un venir à lui avec un cœur brisé et contrit. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité qui est au fond du cœur. Il le dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et quand on est dans la vérité, quand on sait qui on est et qui est Dieu, en fait. Et donc on a besoin de sa grâce, en fait. Donc, et ceux dans le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Cette expérience libératrice que Dieu met dans toute vie, qui accepte sa grâce, en fait. Le monde n'a pas besoin de religion, il a besoin de se savoir aimé par Dieu, qui est prêt à lui pardonner, et ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Vous vous rappelez sa dureté envers les pharisiens qui se retranchaient derrière une loi, et notamment cet épisode de la femme adultère. La loi voulait lapider cette femme, et Jésus dira que ceux qui sont sans péché lui jettent la première pierre. Et se sont tous retirés. Et seul avec la femme, Jésus dira, où sont tes accusateurs? Eh bien, personne ne t'accuse. Moi non plus, je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Jésus est venu pour faire grâce. Et il est venu surtout pour enlever toute culpabilité au cœur de l'homme. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bon, mais à nous de communiquer cette bonne nouvelle. C'est à nous, hein. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quand Paul il dit ça, vous savez, il n'est pas en train de dire « je suis comme ça » parce que Dieu a voulu que je sois comme ça. C'est ce qu'on entend parfois. « Je suis comme ça, mais Dieu l'a voulu. » Non, non. Paul, il peut le dire parce que Paul est un persécuteur et on sait l'apôtre qui est devenu. C'est la grâce qui a œuvré dans son cœur et qui a fait que... Bon. Et c'est la grâce qui va nous changer aussi quand on laisse agir cette grâce de Dieu. 2 Corinthiens 6, 1, donc, puisque nous travaillons avec Dieu, ne vous exhortons de ne pas recevoir la grâce en main. Donc, je termine. Sachons donc tirer les conclusions pratiques de cette réflexion, en fait, à partir de la gravité du péché et la grâce que Dieu nous a faite. Comprenons que vivre sous la grâce, ce n'est pas pouvoir tout se permettre. Non. C'est comme si Dieu fermait les yeux. Non. Parce que Paul, il va mettre en garde. Il dit, là où le péché abonde, la grâce est surabondée. Et en Romains 6, il va poursuivre, que dire maintenant? Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Et on connaît sa réponse. Loin de là, puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Donc on doit s'efforcer de rejeter tout fardeau, et comme dit Hébreux, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et persévérons, surtout en ce temps de vacances, à marcher sur le bon chemin, le chemin de la foi, en ayant les regards fixés sur Jésus. Le passage continue. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. N'oublions pas le prix que Jésus a payé. » Et pour qu'on ait la victoire, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, on l'a lu. Enfin, c'est le résultat de ce que Jésus a fait. Donc, on a la victoire en Jésus. Mais encore faut-il, eh bien, je dirais, avoir ce comportement qui nous permette de toujours être là où Dieu nous a placés. Et pour terminer, j'avais cité cette pub qui disait « parce que je le vaux bien », je dirais « agissez plutôt parce qu'il le vaut bien ». Parce que la perle rare et le trésor dans le champ, c'est pas nous, hein. C'est Jésus. Hein. Et s'il faut tout vendre pour acheter le royaume des cieux, pas dire pour avoir donc, tout ce que Jésus est venu nous apporter, c'est à nous de tout vendre. Hein. Bon, c'est lui la perle rare. Parce que des fois, on pense que Jésus a donné sa vie pour nous acheter nous. Non, c'est pas nous la perle, hein, c'est lui. Bon. Donc Jésus vaut bien les efforts et les renoncements. Hein. que je fais pour le suivre sur le chemin qu'il a tracé. C'est un chemin où je peux marcher en toute liberté et avec une joie profonde dans le cœur. Et dernier point, n'oublions pas de partager autour de nous cette grâce qui seule peut libérer parce qu'elle est toujours offerte, mais chacun en a besoin. Et c'est par cette grâce qu'on est sauvé, en fait. Donc que Dieu puisse se servir de nous pour faire de nous des cadeaux de sa grâce. C'est vraiment ce que je vous invite à demander, que Dieu, partout où nous sommes, que sa grâce coule en nous et puisse toucher le cœur de ceux au contact de qui nous vivons. En fait. C'est important. Et revenons donc à ces choses. C'est la vérité. C'est pas que des belles paroles. On doit le vivre. Et toujours davantage. Je crois que c'est du concret. C'est du concret. Et merci Seigneur d'être toujours là et de nous faire rentrer un peu plus profondément toujours dans cette réalité de ton amour. Et on s'attend à des choses étonnantes. On a un Dieu puissant. Soyons des hommes et des femmes de foi. C'est important. Je t'invite à prier. Seigneur, ta parole eh bien, nous rappelle vraiment qui nous sommes, qui nous étions et qui nous sommes devenus, grâce Seigneur à ce que tu as fait en Jésus. Et c'est vrai que cette nature charnelle, elle est parfois là encore, Seigneur, et on lui laisse encore parfois trop de place. Et pardon Seigneur, parce que on est répréhensible, Seigneur, dans nos comportements, on est loin d'être parfait. Il y a cette sanctification, Seigneur, qui est en cours, et on doit vraiment s'y soumettre, Seigneur. Il y a des efforts à faire, des renoncements, un engagement à prendre et pardon de ne pas toujours Seigneur, être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Mais on sait aussi, Seigneur, que eh bien, tu es un Dieu qui fait grâce, tu es un Dieu qui est toujours prêt à relever. Seigneur, c'est ce verset qui dit que eh bien, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur. Et on veut se saisir de cette promesse. On sait que tu pardonneras toujours, Seigneur, même si on te demande pardon. Et ce matin, on veut recevoir encore, Seigneur, ce pardon, on veut recevoir ta grâce. On veut, Seigneur, vraiment eh bien, renouveler, parce que c'est chaque jour qu'on doit renouveler cette consécration, Seigneur, à te servir, cette consécration à te plaire dans tout ce qu'on fait, Seigneur. C'est pas une fois et ensuite, eh bien, je retourne dans le monde et je vis comme avant. Non, c'est chaque jour, je me positionne devant ta croix. Chaque jour, je mesure le prix que tu as payé. Chaque jour, Seigneur, eh bien, je te dis, utilise-moi, sers-toi de moi, Seigneur. Parce que tes œuvres, je veux les réaliser, elles sont merveilleuses. Seigneur, tu es ce Dieu qui rêve, tu dis une parole, et ce que tu avais dans ta pensée, ça existe, Seigneur. Eh bien, c'est vrai, Seigneur, on sait que tu as des projets merveilleux et que rien ne pourra s'y opposer, Seigneur. Mais tu veux aussi te servir de nous, tu nous fais ce privilège. Eh bien, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions repartir ce matin, eh bien, convaincu, Seigneur, eh bien, que tu es là, que tu agis et que rien ne pourra s'opposer, Seigneur, à ce que tu as prévu pour nous. Et merci encore pour tous ces frères et sœurs avec qui tu nous permets de vivre et qui nous menons des combats, Seigneur, ces frères et sœurs, au contact desquels, eh bien, notre foi, eh bien, parfois elle est un peu secouée, mais notre foi grandit, Seigneur, parce que c'est vrai, on est là pour nous exhorter les uns les autres, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et bénis chacun de tes enfants, Seigneur, qui ce matin encore se sont réunis pour te dire tout leur amour, Seigneur. Et merci de bénir chacun, au nom de Jésus. Amen.